Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Cette émission d'Asialogie sera résolument philosophique et poétique. Oui, puisque nous allons y aborder les concepts complexes qui structurent la pensée asiatique, le vide et le plein.
Oula, Didier. Tout un programme.
Oui.
D'accord.
Et pour compléter notre propos, Didier, tu vas tout nous dire sur l'une des inventions les plus déterminantes de l'histoire humaine.
Exactement.
Le papier.
C'est plus léger. C'est très agréable. J'ai découvert les choses, j'ai bien aimé. Bon, alors, partons sur le gros morceau.
Oui.
Comment peut-on...
Ça m'a donné...
Un peu de travail,
oui.
Je suppose.
De synthèse.
Quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, oula, comment peut-on définir, du coup, Corinne, les concepts du vide et du plein? Quelle différence entre leur conception en Asie et chez nous, en Occident?
Oui, c'est beau le vide et le plein comme concept.
Hein. Oui,
ça,
oui,
tout
oui,
de
oui.
suite, ça nous transporte en Asie.
Hein. Eh bien, allons-y alors.
Alors, dans les traditions culturelles d'Asie, les notions de vide et de plein occupent une place fondamentale. Contrairement aux conceptions occidentales où le vide est perçu comme une absence ou un manque, les philosophies asiatiques le considèrent comme un espace fertile et nécessaire, permettant au plein d'exister et d'avoir du sens.
D'accord.
Alors cette idée est particulièrement développée dans le taoïsme et le bouddhisme, où le vide est associé à une possibilité, à l'interdépendance et à l'ouverture d'esprit, des principes qui influencent toujours profondément les arts, notamment la littérature, la peinture et le cinéma, Didier.
D'accord, bon, jusque-là j'arrive à suivre. En quoi ce sont des principes philosophiques fondamentaux du taoïsme et du bouddhisme, s'il te plaît?
Bon, parlons un peu philosophie. Alors c'est dans le Tao Te Ching, ou Te Ching, prononcé à la française, de Lao Tzu, que le vide est présenté comme ce qui donne sa fonction aux choses. Alors je vais donner un exemple.
Oui.
Un vase est utile, pas seulement grâce à sa matière, mais surtout grâce à l'espace vide qu'il contient.
Ok, ça me parle, ça, d'accord.
Mais oui, c'est une logique
bon
implacable. Et c'est pourquoi le plein correspond à la forme et à la matière, et le vide correspond à l'espace, à la fonction, à la potentialité, Didier.
D'accord, ok, ouais, jusque-là je suis.
Alors le vide et le plein sont donc deux notions complémentaires et interdépendantes.
Mmh.
Alors un autre exemple, prenons une maison.
Oui.
Les murs, les poutres et le toit représentent le plein.
Oui.
Les pièces et l'espace intérieur représentent le vide. Et sans cet espace vide, la maison serait inutilisable.
Bien sûr, ouais.
Et le vide n'est donc pas un manque, il est la condition de l'utilité de la maison.
D'accord.
Nous, on n'a pas, l'habitude
on a pas cette vision-là.
De voir le vide comme ça.
Bien sûr.
Alors, l'idéal taoïste consiste à cultiver un esprit vide, c'est-à-dire ouvert, réceptif et sans rigidité.
Mmh.
Et on retrouve bien sûr cette logique dans le symbole du yin et du yang.
Mmh.
Le yin qui évoque le creux, le réceptif, le vide, c'est le concept féminin.
Ouais.
Et le yang évoque le plein, l'actif, la forme, et chacun contient une part de l'autre.
Mmh.
Ça, c'est un principe taoïste.
D'accord.
Alors, dans la pensée bouddhiste, je dirais, c'est un petit peu plus complexe peut-être, c'est différent.
Ouais.
Le concept de vacuité, donc on parle plus de vacuité que de vide, affirme que les choses et les phénomènes dépendent des causes, de conditions et de relations.
Mmh.
Alors le vide signifie donc que les choses n'existent pas, mais qu'elles n'ont pas d'existence propre,
d'accord,
indépendante et permanente. Alors
okay.
Oui, c'est... Alors plus clairement,
oui,
tous les...
oui,
c'est ça. Tous les phénomènes existent uniquement parce qu'ils sont en relation avec d'autres phénomènes et disparaissent lorsque ces conditions cessent.
Okay.
Ainsi, rien ne possède une existence immuable.
Okay.
Et admettre la vacuité de chaque chose permet d'éviter deux extrêmes, croire que les choses existent de manière absolue ou penser qu'elles n'existent pas du tout.
Mm-hmm.
Il n'y a pas qu'une vérité en gros.
D'accord.
Et la vacuité représente donc la voie du milieu, ce qui aide à se libérer de l'attachement et de l'illusion d'un moi permanent. Alors c'est dans cette compréhension qui peut nous mener progressivement à la sagesse et à l'éveil dans le bouddhisme.
Bien.
Alors je vais vous donner un exemple concret, je suis sûre
Merci.
Que les auditeurs l'attendent et toi aussi Didier.
Oui.
Hein. Avec la fleur, dans la perspective bouddhiste, la fleur contient tout à la fois, et ça je trouve ça très beau, le soleil, l'eau, la terre, le jardinier et le temps.
Ah.
Et sans ces éléments, la fleur n'existerait pas.
Effectivement.
Elle est donc vide d'existence propre, mais faite d'interdépendance.
Oui, c'est vrai, d'accord, vu comme ça, ok.
Ça éclaircit bien.
Ça me parle pas mal. Alors,
je trouve, ça Corinne, explique bien.
Comment ces principes du vide et du plein influent la littérature asiatique? Parce que ça a une influence aussi par ailleurs.
Mais bien sûr. Dans la littérature chinoise et japonaise, les concepts du vide et du plein structurent aussi la manière d'écrire qui privilégie la suggestion plutôt que l'explication pour laisser des espaces d'interprétation au lecteur.
D'accord.
Le vide devient alors un outil esthétique et narratif, car dans la pensée taoïste, ce qui est absent peut être aussi important que ce qui est présent.
Ok.
Alors, dans la poésie classique chinoise, les émotions sont rarement exprimées directement.
Oui.
Les poètes décrivent plutôt des paysages, des éléments de la nature, des scènes simples de la vie quotidienne qui constituent le plein, tandis que les émotions implicites qu'ils suscitent représentent le vide.
Mmh.
Et le lecteur doit ainsi interpréter et compléter le sens du poème. Alors, je vais donner aussi un exemple.
S'il te plaît.
Alors, l'auteur... n'y décrit donc pas ses émotions directement. Il va évoquer une montagne lointaine, une rivière ou un bateau qui va disparaître dans la brume du soir.
D'accord.
Le texte ne dit pas que le poète ressent de la solitude ou de la nostalgie, mais le vide émotionnel du texte permet au lecteur de ressentir ses sentiments.
Je comprends.
Même quand on dit, un bateau va disparaître dans la brume du soir, on se sent tout de suite nostalgique de
bien
quelque
sûr,
chose.
Bien sûr, tout à fait.
Alors, dans la poésie japonaise, notamment dans les haïkus de Matsuo Basho, dont nous reparlerons prochainement, l'esthétique du vide est parfaitement illustrée. Les haïkus sont extrêmement courts et se concentrent sur un instant précis et le sens naît de ce qui n'est pas explicitement dit.
D'accord, oui, clairement.
Le vide devient donc un espace de participation et d'interprétation pour le lecteur.
Mmh.
Alors, un de ces haïkus célèbres dit « Vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau ». Ici, les mots sont peu nombreux. « Vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau ». Et l'événement est minuscule.
Mmh.
Pourtant, le poème a créé une expérience de contemplation pour le lecteur qui va ressentir l'instant plutôt que de le comprendre intellectuellement.
D'accord.
Moi, je trouve ça très fort, franchement.
Les haïkus, il faudra qu'on en reparle. C'est
ça, on va en reparler.
C'est quelque chose que j'aime bien, oui. Alors, autre chose que j'aime beaucoup, et ça se traduit comment dans la peinture? Parce que voilà un art que j'aime beaucoup, donc dis-moi.
Oui, dans la peinture traditionnelle asiatique, je vais généraliser un peu.
Bien sûr.
Les paysages comportent souvent de grandes zones non peintes. Ces espaces blancs peuvent représenter la brume, le ciel, l'eau, ou tout simplement l'infini, ce qui a toujours une fonction symbolique. Ils permettent à l'imagination du spectateur de compléter l'image.
D'accord.
Alors, le vide devient donc un élément actif de la composition, comme on peut le voir dans certaines œuvres. La montagne en occupe une partie, tandis que le reste est laissé vide. Et ce contraste va donner une impression de grandeur ou de profondeur à l'image.
Okay.
C'est un peu pareil en photo, non, Didier?
Là, on pourrait parler longtemps, oui.
Oui, je m'en doutais. Alors, dans les jardins traditionnels japonais, tu nous en avais parlé, Didier, notamment les jardins zen, l'équilibre entre le vide et le plein est fondamental. Le célèbre jardin du Ryohanji à Kyoto en est un exemple, car il se compose de quelques pierres, le plein, placé dans un vaste espace de gravier ratissé qui représente le vide, ce qui permet la méditation, la contemplation et, comme on le disait tout à l'heure, de s'ouvrir l'esprit.
Ouais.
Voilà, le sens du jardin ne réside pas seulement dans les pierres, mais dans l'espace qui les entoure.
D'accord.
Donc, en résumé, le vide donne son utilité au plein.
Bien sûr.
Et l'espace vide est aussi important que ce qui est visible.
Clairement.
Et ensemble, ils forment un équilibre dynamique qui structure la pensée, la création artistique.
J'aime bien l'idée. D'accord.
Alors, c'est moi qui ai choisi la pause musicale, là, cette fois, Didier.
Oui.
J'ai choisi une très belle chanson vintage du film...
Je l'ai senti quand je l'ai écoutée.
In the Mood for Love, c'est Tony Leung. Et c'est donc In the Mood for Love de Wong Kar-wai.
Ok, c'est parti. <音乐><音乐>
光炽热闪烁，狂乱越难掌握。
我像是着了魔，你欣然承受，别奢望闪躲。怕是谁的背影叫人难受，
让我狠狠想你，让我笑你无情，连一场欲望都舍不得回避。
Alors Corinne, effectivement, c'était un petit peu vintage. Moi, je hurlais sur le côté technique parce que c'est bon. Voilà, j'espère que les auditeurs ont entendu l'oreille, mais c'était quand même pas désagréable.
Très jolie chanson.
Toujours sur Asialogie. Et on se retrouve donc pour parler du plein et du vide. Retrouve-t-on donc des notions de vide et du plein dans les arts visuels comme le cinéma maintenant ?
Oui, bien sûr, on peut parler d'une esthétique du vide, Didier, dans
d'accord.
le cinéma asiatique, okay. car beaucoup de réalisateurs l'utilisent au travers des silences, des plans uh-huh. fixes et des ellipses narratives.
D'accord.
On retrouve exactement les mêmes principes que dans la littérature et dans la peinture.
Okay.
Et Yasujiro Ozu utilise des plans de lieux vides pour refléter la mélancolie et marquer le passage du temps. Grand cinéaste Ozu, okay. hein, japonais. Ces plans ne font pas avancer l'histoire directement, mais ils créent un espace de respiration pour le spectateur. Et dont, dans In the Mood of Love,
oui.
dont on vient d'écouter la
voilà,
chanson
ouais.
de Wong Kar-wai, bah, les silences et les gestes remplacent les dialogues explicites. Et ainsi, le vide permet de suggérer les émotions plutôt que de les expliquer. Et c'est beaucoup plus fort, en fait.
Okay.
Et ça permet aux spectateurs de ressentir l'atmosphère ou l'état émotionnel des personnages d'une façon bien plus vive.
Mm-hmm.
Alors, ce qui n'est pas dit devient alors essentiel pour comprendre la relation des personnages.
D'accord.
Alors, au cinéma, le plein sera donc, lui, représenté par l'action ou les moments d'émotion liés, par exemple, à une confrontation entre les personnages ou une révélation. Alors ces moments sont relativement rares, mais très marquants dans le cinéma asiatique. Je parle pas de films d'action, hein, on est d'accord.
Oui, on est bien.
Car ils sont amenés après de longs passages de calme pour donner un rythme particulier à l'histoire.
Mmh.
Alors le cinéma asiatique utilise aussi en général le vide dans la composition d'une séquence. Par exemple, un personnage placé dans un coin du cadre avec un grand espace vide autour de lui,
ouais.
ou un paysage immense avec une petite silhouette, ça renforce souvent le sentiment de solitude ou d'insignifiance face au monde.
Ça me parle aussi, photographiquement parlant.
Voilà.
Alors, donc, on a parlé du cinéma, passons aux séries, Corinne.
Oui, alors on retrouve ça aussi dans les séries coréennes,
ouais.
Je dirais surtout, où les scénaristes laissent volontairement des éléments inexpliqués, avec par exemple certaines motivations ambiguës,
mmh.
avec des événements suggérés mais non montrés, avec une fin qui peut rester ouverte, pour obliger le spectateur à interpréter lui-même l'histoire ou l'inciter à réfléchir sur les zones grises de la situation. Ça peut être frustrant.
Ouais.
Hein. Contrairement aux séries américaines où tout est dit hein, et tout montré.
Ça.
Voilà. Alors que ce soit dans les films ou les séries, il existe un réel contraste avec le cinéma occidental
mmh.
où le récit est le plus souvent explicatif, avec les émotions verbalisées et les motivations clairement expliquées, avec l'action qui progresse rapidement.
D'accord.
Voilà.
Ah, du coup, Corinne, retrouve-t-on ces notions du vide et du plein ailleurs que dans ce que tu viens de citer ?
Oui, on les retrouve dans l'Ikebana, Didier, tu nous en avais parlé aussi.
Hein, oui.
L'importance de l'espace vide autour des plantes, hein, contrairement aux compositions occidentales qui sont souvent chargées. Hein, dans l'Ikebana, le plein correspond aux éléments visibles et peu nombreux. Et le vide, c'est l'espace qui permet au regard de circuler autour des fleurs et de mettre en valeur chaque composant du bouquet, ce qui rend le vide toujours aussi important que les fleurs elles-mêmes, Didier. Mais ça,
sûr.
Tu le sais, bien
oui,
sûr.
C'est vrai, c'est vrai.
Et nos auditeurs aussi. Et nos auditrices, surtout. J'espère que les auditeurs aussi. On retrouve aussi ces concepts dans la stratégie des arts martiaux, Didier, dans l'art de la guerre.
Oui.
Ça aussi, on en parlera.
Ouais.
Sun Tzu les utilise pour décrire les situations militaires.
D'accord.
Alors, le plein représente les zones fortes et les positions solides, et le vide, les faiblesses et les espaces ouverts et vulnérables.
Okay.
Eh bien, évidemment, la stratégie consiste à attaquer le vide et éviter le plein.
Bien sûr.
Par exemple, si une armée est fortement présente dans un endroit plein, il serait inefficace d'attaquer de l'attaquer là. Oui. Il faudra aller trouver son point faible vide et frapper à cet endroit. Et ce principe influence aussi les arts martiaux. On utilise l'espace, la souplesse et le mouvement plutôt que la force brute comme l'aïkido, tai chi chuan ou le kung fu.
Ouais.
Voilà, le vide est utilisé pour transformer l'énergie plutôt que de s'y opposer directement. On avait vu ça aussi avec Bruce Lee.
Tout à fait.
Voilà. Alors, au-delà de la technique, l'alternance entre le vide et le plein permet la maîtrise du corps et de l'esprit pour rester attentif et calme afin de se concentrer au moment opportun.
Ok.
Voilà. Je pense, je crois que j'ai tout expliqué, Didier.
C'est pas mal, oui.
Tout le monde a compris.
Je pense, moi j'ai compris, donc tout le monde devrait le faire aussi.
Voilà, donc Didier, tu nous proposes une pause musicale, c'est comme tu nous vas parler du papier, tu as trouvé une pause musicale qui s'appelle Paper Person, donc la personne de papier.
Voilà.
On écoute ça. C'est chinois.
Exactement.
一只书卷，唯独啊，且再看。启笔某日，将结局可窥探。世事从来皆因果，无常事又能死灰觅忘返。 回想要的答案，容风翻动我过往篇章，容笔墨写我当时非常，总要看着命运诉我多少种模样，容月光照见爱恨几何。 容我与南墙横冲直撞，就算命注定与我义无反。世人百态。
C'était Liu Yuning
sur
Radio Alpa dans Asialogie.
Jolie chanson.
Oui, c'est une jolie chanson, très belle voix aussi.
Ouais, c'est ça, je trouve aussi. Ouais.
Bon Didier, le papier est au centre de l'histoire humaine.
Oui.
Et tu vas nous raconter son histoire
tout
et son importance,
tout à fait.
Que ce soit dans les arts ou la vie quotidienne.
Oui, c'est notre quotidien aussi, encore aujourd'hui quand même.
Tout à fait.
On n'est pas tous derrière que des ordinateurs.
C'est
donc,
vrai.
Donc, du coup, le papier, c'est une des inventions les plus importantes en fait de l'humanité, on est bien d'accord.
Oui.
Il est bien plus qu'un simple support d'écriture, car il a joué un rôle essentiel dans l'évolution des sociétés, des religions et des pratiques artistiques. Jusque-là, tout va bien. En Asie, le papier a une importance culturelle particulière. Il a servi à transmettre le savoir, à produire des œuvres d'art, à fabriquer des objets du quotidien et à accomplir des rituels religieux. Le papier est une invention chinoise. C'est Cai Lun, ça va, c'est bon comme ça quoi.
Oui, ça va, ça va.
Un fonctionnaire de la cour impériale sous la dynastie des Han qui l'aurait inventé il y a environ 2000 ans. Alors, il aurait amélioré un procédé permettant de fabriquer un matériau léger et peu coûteux destiné à remplacer les supports utilisés auparavant. Parce qu'avant cette invention, les Chinois écrivaient par exemple sur des lamelles de bambou qui étaient solides, mais lourdes et difficiles à transporter.
Ah oui, oui, oui.
Forcément, les textes importants nécessitaient des dizaines de lamelles attachées ensemble. Vous imaginez bien ce que ça peut
donner. Oui, alors pour faire un gros livre,
c'est ça, c'était pas
les pérégrinations vers l'Ouest par exemple.
Par exemple, c'est pas ça. La soie était également utilisée, mais bon là, vous doutez bien aussi que son coût élevé la rendait inaccessible pour un usage courant. Alors le papier a d'abord profondément transformé l'administration, puis ensuite la culture chinoise. L'Empire avait une bureaucratie très développée, on l'a déjà parlé, et le papier a donc facilité la production de documents officiels et donc la constitution d'archives.
Oui, très important pour l'histoire. Alors, comment était fabriqué le papier, Didier ? Avec quoi ?
Alors, la tradition chinoise de fabrication du papier reposait sur un procédé artisanal complexe. La première étape consistait à collecter des fibres végétales comme l'écorce du mûrier, le chanvre ou les chiffons recyclés. Ces fibres étaient bouillies dans l'eau afin de les ramollir. Après cette cuisson, elles étaient battues pour produire une pâte fibreuse homogène qui était ensuite délayée dans une cuve rectangulaire remplie d'eau. Puis, on tamisait l'eau pour récupérer une fine couche de fibres qui était pressée, séchée, pour devenir une feuille de papier. On pouvait procéder pour produire des papiers de différentes qualités pour des usages aussi différents.
Donc le papier est donc devenu rapidement un support artistique majeur en Chine, parce qu'on a des écrits, des peintures qui sont très anciennes.
Oui, tout à fait Corinne. Pour la calligraphie, qui est l'un des arts les plus emblématiques de la Chine, la peinture chinoise s'est également développée grâce au papier. Le rouleau peint du voyageur parmi les montagnes et les ruisseaux, réalisé par Fan Kuang au XIe siècle, je suis allé voir à quoi ça ressemblait, est très célèbre.
Beau.
Oui, ça représente un paysage montagneux immense et illustre l'importance du vide, nous y voilà,
et
de l'espace dans l'esthétique chinoise. C'est vrai que ça. Je vous invite à aller voir sur Internet, ça va.
C'est voyageur parmi.
Voyageur parmi les montagnes et les ruisseaux.
D'accord.
Si vous tapez ça, vous allez trouver tout de suite. Le papier a joué aussi et joue toujours un rôle essentiel dans les arts populaires, notamment dans la tradition du papier découpé, une technique qui consiste à découper des motifs dans du papier très léger, souvent en rouge, pour représenter des animaux du zodiaque, les fleurs, des symboles de bonheur ou des scènes de vie quotidienne. Ces découpages sont particulièrement utilisés lors du Nouvel An chinois. On les colle sur les fenêtres ou sur les portes des maisons afin d'attirer la chance et la prospérité. Deux autres exemples importants, la tradition des cerfs-volants en papier. Ça me fait rêver. Et des théâtres d'ombre chinoises que j'aime aussi tout autant.
C'est très beau.
Oui. Mmh.
Alors, je suppose que le papier s'est ensuite diffusé dans les pays voisins. Ils ont aussi la culture du papier à côté.
Tout à fait, oui. Il est diffusé en Corée, où les artisans ont développé leur propre papier traditionnel. C'est le papier Anji, fabriqué à partir de l'écorce du mûrier. Ce papier Anji est réputé pour sa grande résistance et sa longévité. Alors l'exemple le plus remarquable, c'est le Jikjin, Jikji, un texte bouddhique imprimé en 1377. Oui, j'ai bien dit imprimé, ça va peut-être vous parler, parce que 1377, avec des caractères donc métalliques mobiles, 78 ans avant Gutenberg.
Oui, ça on l'ignorait.
Et
quand
voilà,
même.
Oui, moi ça je l'ignorais. Il est considéré comme le plus ancien livre imprimé encore conservé et il appartient à la BNF.
Ça, oui, aussi, qui l'eût cru.
Ouais, je ne sais pas si on peut du coup le voir ou voir des copies. Le papier est ensuite rentré dans la vie quotidienne des Coréens, dans les Hanok, les maisons donc traditionnelles, on en a déjà parlé, les cadres des portes et des fenêtres étaient recouverts de papier Anji. Ce papier permettait de filtrer la lumière tout en laissant circuler l'air et protéger du froid. Alors, le Anji servait également à fabriquer des lanternes, des éventails et toutes sortes d'objets artisanaux et même des armures légères en superposant les couches de papier. Ces techniques artisanales ont été reconnues par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
C'est beau, je trouve, cette histoire du papier. Alors, quand est-ce qu'il est arrivé au Japon ? Parce que c'est un pays du papier aussi, le Japon.
Clairement.
Est très important là-bas.
Oui, on imagine bien, on a tous ces idées en tête du papier utilisé au Japon. Alors, l'arrivée du papier au Japon s'est faite au VIe siècle par des moines bouddhistes, comme toujours, quoi.
Oui,
venus de Corée à chaque fois.
Ça.
Je dis toujours la même chose, en fait, c'est toujours ça. Les artisans, et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Les Japonais donc, ont ensuite développé propre papier, le washi, ça aussi,
oui,
ça
très
me parle,
célèbre, le washi.
Il y a ça aussi, fabriqué lui aussi à partir de fibres végétales, comme en Chine et en Corée, avec des proportions de fibres différentes. Le papier est aussi très présent dans l'architecture traditionnelle, les portes coulissantes, les soji, qui sont constitués d'un cadre en bois recouvert de papier translucide qui diffuse une lumière douce dans les pièces. Les paravents, les lanternes étaient aussi en papier. Enfin, on a tout l'univers japonais qu'on connaît imaginaire avec tout ça, quoi. Le papier est donc très résistant, très présent dans l'art japonais, particulièrement Et oui, les origamis, ça aussi. L'art du pliage du papier. La grue pliée en papier, symbole de paix et la forme la plus célèbre. Elle est associée à l'histoire de Sadako Sasaki, une petite fille qui a eu une leucémie suite à la bombe atomique d'Hiroshima. À l'hôpital, elle pliera des grues en papier qui, selon la légende japonaise, promet d'exaucer un vœu après 1000 grues fabriquées. Alors, Sadako mourra, elle, en 1955 et deviendra un symbole mondial des victimes du nucléaire.
Oui, c'est une histoire triste.
Oui, ben oui. Mais... À noter que le papier est également utilisé dans l'estampe japonaise, très chère à mon cœur. La célèbre œuvre de la grande vague de Kanagawa Dokusai a été imprimée sur du papier washi. Ça, je crois que tout le monde l'a en tête et la visualise assez facilement.
Oui, c'est fou comme le papier est important en Asie. Hein. Et dans la religion, en quoi le papier est important, Didier ?
Alors, en Asie, le papier y possède aussi une forte dimension spirituelle et symbolique. En Chine, les objets en papier brûlés lors des cérémonies funéraires sont des offrandes destinées aux ancêtres. Au Japon, le papier est utilisé dans des rituels shintoïstes pour signaler la présence du sacré. Alors, le papier, matière très noble, est donc lié à la mémoire, à la spiritualité et la transmission culturelle. Aujourd'hui, malgré l'essor du numérique, le papier est toujours un symbole fort du patrimoine culturel et c'est heureux, je trouve.
Oui, bah merci Didier, c'était beau ce sujet.
Oui, j'ai bien
entre
aimé.
Entre le vide et le plein et voilà, le papier, ça, et c'était plein de poésie.
C'est ça. Le papier c'est léger, mais c'est encore dans notre vie et c'est très très
oui,
bien.
Oui, c'est très très bien, on aime le papier. Bon, Asialogie, c'est fini les amis, vous et pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin à 9h30, le mercredi à 13h, et bien sûr en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes aussi. Rendez-vous jeudi prochain à midi, toujours sur Radio Alpa 107.3. FM Le Mans et voilà. Sur internet.
C'est ça, Radio Player, c'est bien quand vous mettez Radio Player dans la voiture, toutes les émissions filent, vous n'avez rien besoin de faire, vous avez juste besoin de nous écouter, donc je vous invite à le faire. Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut.